Titan Mag, T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent. Nous aimons les magiciens qui font paraître la vie toujours plus belle et qui interrogent du bout des yeux. L'art d'étonner, de mettre un décor à disposition et d'inviter à y rentrer. Pas facile de travailler entre ciel et terre juste pour nous faire décoller dans un rêve les jours trop gris. Les fresques et les trompe-l'œil, voilà notre sujet de cette émission. Nous recevons en cet honneur Charline Charge-Legge, artiste peintre, muraliste et décoratrice, et Roland Bertrand, artiste peintre et décorateur ou tout simplement un artisan d'art. Une rencontre qui, elle, n'est pas en trompe-l'œil. Leur cheminement réciproque. Charline, née dans une famille d'artistes, la pousse vers la création. Mais il faut trouver, il faut choisir sa voie. Un baccalauréat littéraire option art plastique l'emmène tout naturellement vers une année aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. La ville du design lui révèle son goût et ses capacités pour la décoration d'intérieur qu'elle poursuivra à l'École supérieure d'architecture d'intérieur de Lyon. Pendant ses temps libres, Charline travaille avec Roland Bertrand pour découvrir les techniques de peinture décorative et s'initier tout doucement à l'art de la fresque et du trompe-l'œil. Une rencontre importante qui marquera ses pas dans la vie professionnelle. Charline comprend réellement ce qu'elle aime, dessiner, peindre, des gestes qui lui procurent une grande liberté. La voilà qui respire, qui se trouve et en redemande. Roland Bertrand, lui, n'aime pas l'école où il rentre à 5 ans. Il accepte juste les matières qui le passionnent, l'histoire, la géographie et surtout le dessin. À 14 ans, il entre au collège Conflans à Albertville, qui s'occupe entre autres de peintres en décoration et peintres en lettres. Il y apprendra principalement le métier de peintre en bâtiment. Il aura la chance d'apprendre les techniques anciennes de fabrication des peintures à l'huile, badigeon et autres. Il entreprendra ensuite un parcours professionnel toujours dans la peinture. Merci Charline Charge-Legge et Roland Bertrand d'avoir accepté notre invitation et de nous faire entrer dans un monde fait d'illusions et de rêves. Tout d'abord, Roland, nous comprenons que vous avez toujours eu le don du dessin, mais quand vous est venu le déclic pour la peinture décorative ?
Eh bien, j'étais donc dans une usine de peinture où je faisais la démonstration et de la formation. Et mon ingénieur m'a demandé de faire un mur peint. Donc, il voulait faire un dessin humoristique sur le ski. Puis moi, je me suis dit, ça ne me convient pas forcément. Et je lui ai proposé de faire le massif du Mont-Blanc, mais avec les outils du peintre en bâtiment. Alors, je me suis muni de truelles, d'éponges naturelles, des choses comme ça. Et j'ai fait là mon premier dessin. C'était le premier d'un très grand nombre, de plusieurs centaines.
Charline raconte « L'un veut apprendre, l'autre veut transmettre et les deux veulent partager l'amour de la création avec les autres. Comment se passe votre rencontre et comment se soude et se coule entre vous cette même passion de la fresque et du trompe-l'œil ? Un clin d'œil au public, un jeu avec ce public ?»
Je vais peut-être dire comment je t'ai rencontré quand même. En premier, c'est peut-être le plus important. En fait, je travaillais dans un magasin de Pont-de-Beauvoisin et je faisais là une fresque, des chutes d'eau, des choses comme ceci. Et puis, il y avait une petite jeune fille qui s'est approchée, qui me regardait travailler avec sa maman. Et elle est restée là presque toute la journée. Alors, en fin de journée, je lui ai dit, c'est très bien. Je me trompais d'ailleurs de prénom. Je ne l'appelais pas Charline, mais Pierrine. Je lui ai dit, écoute, Pierrine, c'est pas la peine de me regarder. Viens travailler avec moi. Voilà.
Oui, de mon côté, j'avais intégré une association de spectacles Et je cherchais la personne qui s'était occupée jusqu'à présent des décors de cette association de sons et lumières. Et on m'a renseigné, on m'a dit que c'était Monsieur Roland Bertrand, et je l'ai cherché quelques jours pour le trouver, jusqu'à ce qu'on me dise qu'il était en train d'exécuter une fresque donc à Pont-de-Beauvoisin, et c'est là donc voilà où je l'ai rencontré vraiment à ce moment-là. Et puis générosité qui toute générosité qu'il est tout le temps. Donc c'est vraiment comme ça, il m'a dit tu viens à l'atelier, tu essayes, tu fais ce que tu veux. Je suis allée dans son atelier, il m'a fait essayer tous ses produits, toutes ses techniques, et il m'a confié une partie de la fresque qu'il était en train de réaliser en atelier. Donc voilà.
Et quel âge aviez-vous à ce moment-là?
J'étais dans ma dernière année de lycée. Ouais, donc j'avais 18 ans.
T'avais 18 ans.
Et ce que vous apprenez avec Roland est nouveau pour vous, malgré les études de dessin, de beaux-arts?
Son approche est nouvelle, c'est-à-dire voilà, ses outils, sa façon de faire étaient pour moi effectivement novatrices. Après, le fait de peindre sur les murs, j'avais mes parents pour témoigner, déjà sévi sur murs et portes de la maison. Donc pour moi, c'était super. J'avais quelqu'un qui vivait de ce métier-là, quoi. Qui m'apprenait vraiment la réalité du métier, en tout cas.
Et pourquoi cette envie de recouvrir les portes, les murs
Je trouve que cette discipline artistique, au niveau art plastique, on n'est pas enfermé dans un musée, on propose à tout le monde. Le fait de peindre sur les murs, c'est offrir cette forme d'art à tous ceux qui veulent bien s'arrêter, regarder. Alors bon, quand c'est à titre privé pour les particuliers, c'est pour eux, mais en tout cas pour les communes, voilà, c'est donner cette œuvre à tout le monde, en tout cas, voilà.
Est-ce que lorsqu'on entame une fresque, parce qu'elles sont gigantesques, c'est tout un mur, bien souvent un pan de mur, et ça peut monter, est-ce que la technique est tout à fait différente et l'approche, vous avez une idée, vous faites un dessin d'abord sur papier, comment se passe la chose?
Le projet, c'est essentiellement moi qui m'en occupe. On discute beaucoup avec les clients. D'abord, pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, quel style, quel sujet.
L'environnement.
Voilà, l'environnement, bien sûr. La destination du public aussi. Si c'est pour une commune, ça va être, voilà, il faut que ça soit ouvert aux habitants, aux gens de passage, il faut que ça soit compréhensible de beaucoup de gens. Après, si c'est pour un commerce, voilà, on va s'attacher aussi au style du commerce et à ses besoins et à ce qu'il veut, en tout cas, donner à voir. Après discussion, il y a un brainstorming en fait qui se fait, quelques mots qui vont ressortir de ça, des mots clés, et puis je vais réaliser trois projets, trois croquis très différents les uns des autres, à des coûts aussi différents, c'est-à-dire quelque chose de très complexe, très détaillé, quelque chose de plus épuré, et puis un autre très original, par exemple, avec trois styles différents. Et c'est après ce moment-là où j'arrive à comprendre ce que veut exactement la personne. Parce que généralement, c'est difficile pour une personne qui n'est pas directement dans le métier de décrire exactement ce qu'ils voient et ce qu'ils imaginent. Ils ont du mal à se projeter. Donc voilà, cette première tranche de travail sert à ça, quoi. Et puis après, réalisation d'une maquette en couleur à une certaine échelle.
Je suppose que parfois vous êtes confronté à d'autres sociétés. Il y a souvent des appels d'offres. Par exemple, des mairies peuvent commander une fresque et donc après, un marché se fait et donc vous répondez au projet et que vous êtes souvent aussi en concurrence avec d'autres sociétés.
Alors on est en concurrence, ça peut arriver effectivement. Après, on réalise que finalement, on a aussi nos secteurs d'activité. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup côté Savoie, Haute-Savoie, Isère. Après, voilà, on est connu là-bas, donc on est plus sollicité facilement. Et puis, ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire qu'on est comme les autres, quand on est en concurrence, effectivement, on propose et, ma foi, le choix ne nous appartient pas.
Et alors, donc, vous avez le dessin qui est là. La suite, comment se passe-t-elle? On accepte une de vos trois propositions. Et qui fait quoi? Comment vous entamez le travail en général?
Bon, on se concerte.
Déjà, Charline, souvent, fait le tracé. Elle est bien meilleure en dessin que moi. Et donc, c'est souvent elle qui fait le tracé.
Là, tu parles là, on est déjà sur le mur. Mais quand même, je fais une maquette à l'échelle avant. Oui. Voilà, avec tous nos choix, on a discuté ensemble avec les clients, entre nous. On a sélectionné, je fais une maquette. Et là, on valide ensemble avec le client la totalité du dessin. Et suite à ça, on entame le travail, puisque la maquette est à l'échelle. Donc, elle nous permet de démarrer le travail.
Après, donc, il y a un ordre de travail, parce que depuis, on est réglé comme du papier à musique, on peut dire, on a tellement d'années ensemble. En principe, j'attaque le ciel tout le temps, parce que c'est une technique souvent à la truelle, avec les nuages, tout ça, qui se fait très très vite, plusieurs mètres carrés à l'heure. Hein. Et puis ensuite, les rochers, tout ça, c'est également mon petit truc à moi, c'est la matière, tout ça. Et Charline reprend tout ce qui est artistique derrière et tout. Elle m'accompagne beaucoup aussi dans le dessin parce qu'elle prend du recul, elle regarde, elle me dit tiens, relance un nuage là, ce rocher là, il est passé. Voilà. Et ensuite, Charline est totalement spécialisée dans toutes les petites finitions que je ne touche plus depuis que je suis avec elle parce que je le faisais avant. Mais maintenant, je trouve qu'elle est tellement bonne que ce n'est pas la peine que j'intervienne là-dessus. Elle est bien meilleure que moi. Et c'est une vraie artiste, donc les personnages, les portraits, tout ça, c'est Charline. Voilà.
Je suppose qu'avant, il y a la préparation du support, la préparation du mur. Ça consiste à quoi?
Alors, tout dépend de l'état du mur. C'est-à-dire que, par exemple, pour une commune qui fait appel à nous sur un mur très dégradé, ils font souvent appel à une société spécialisée. Ils refont la façade. On dit, nous, on conseille la finition, selon le sujet qu'on va aborder. Et puis après, c'est à nous d'attaquer. Donc, on fait nos fonds, nos premières couches. Donc voilà, c'est ce qu'expliquait Roland. Soit c'est du paysage, et là, Roland s'occupe de tous les fonds. Moi, je viens après pour le tracé, pour le dessin en lui-même. Mais voilà, en fonction du support... soit on s'est confié à une autre société qui est plus spécialisée, soit ce qui nous est arrivé pour la commune d'Aoste où c'était un mur crépi, on a décidé de travailler en enduit épais, donc on est allé directement sur le mur.
Sur le crépi, ce qui est voilà.
Oui, c'est difficile de faire un tracé sur un crépi.
Oui, pas tracé. On a commencé à enduire.
Oui, voilà. C'est impossible de faire un tracé sur du crépi. Il faut que le mur soit lisse, non?
Tout dépend du sujet, après.
Vous pouvez aussi le faire sur du crépi.
Disons que, par exemple, on a un paysage de quelque chose d'irrégulier, de la forêt, de la montagne. Voilà, ce qu'il y a dessous, finalement, on fait pas de ligne droite. Tant qu'on fait pas de ligne droite, ça va. Dès qu'on a besoin de tracer des lignes... ou un visage, ou quelque chose de précis, là, c'est évident, on doit être très, très lisse et très bien préparé dessous.
Donc, en fait, c'est un peu... Le mur vous fait penser au dessin aussi, ça joue aussi ou bien vous faites un dessin,
on
non, pas forcément.
On peut transformer le mur. On travaille souvent donc, avec des produits à la chaux, hein. Ce sont ce qu'on appelle les pare-lumière, ces choses-là, vous voyez, qui travaillent en grosse épaisseur. Sur ces murs qui sont très grossiers, on va travailler avec cet enduit qui permet de rattraper même des choses assez importantes. Hein. Mais c'est vrai, comme disait Charline, par exemple, si on a un pont qui doit être rectiligne, s'il y a une bosse dessus, c'est foutu, le trompe-l'œil ne fonctionne plus. Hein. Dès qu'on le regarde, on voit cette bosse qui nous gêne complètement. Donc là, on va redresser au maximum, hein, voire presque à la règle, hein, ça nous est arrivé, pour avoir quelque chose de bien, bien plat. Pour pouvoir faire quelque chose de rectiligne dessus, voilà.
Mais après, en termes de sujet, effectivement, des fois, le support va susciter en tout cas une idée. Par exemple, un mur très long, très haut, va évidemment pas amener le même sujet qu'un mur, on va dire, de 2 mètres tout en longueur. Ça aussi, l'environnement, bien sûr.
On ne quitte pas son ami comme un soulier dont la semelle prend la boue et la pluie. On n'use pas l'amitié, et c'est bien ainsi quand ils ont bien choisi. Main dans la main, deux amis bravent le destin, la même flamme éclaire leur visage. De chouette, un ami, c'est le bel Ernest au nez en trompette, qu'il n'aime pas qu'à demi. Et c'est bien ainsi, car il a bien choisi. Main dans la main, ils peuvent braver le destin. Leur cœur est beau, qu'importe leur visage. C'est bien ainsi, car ils ont bien choisi. Main dans la main, ils peuvent braver le destin. Leur cœur est beau, qu'importe leur visage. On ne quitte pas son ami comme un soulier dont la semelle prend la boue et la pluie.
FM 97.1. Nous venons d'entendre Les Têtes Raides dans On ne quitte pas son ami de l'album Corps de mots.
Alors, Roland, vous étiez en train d'évoquer les fresques avec Charline. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les techniques qui permettent de réaliser ce genre d'ouvrage ?
Oui, eh bien, les techniques, moi, j'ai eu la chance de faire un très grand nombre d'années de formation pour une usine de peinture, où j'ai appris un peu à me servir de tous les matériaux, à les essayer, même à créer aussi des nouveaux produits. Et donc, c'est à partir de toute cette connaissance que j'ai pu me permettre de travailler avec des choses où les peintres plus lambda vont pas oser, parce que précisément, ils n'ont pas cette formation... vraiment à la base, si vous voulez. Et avec cette formation-là, donc, ça me permet à chaque fois d'amener une technique bien spécifique au trompe-l'œil que l'on va faire. Alors, très souvent, donc, Charline le disait tout à l'heure, la préparation est faite par les entreprises qui viennent poser l'échafaudage. C'est déjà une question d'échafaudage qui sont trop hauts, qu'on ne veut pas poser nous-mêmes. Et ensuite, donc, on va travailler avec souvent de la peinture qui a de la silice dedans. C'est du sable et de l'acrylique. Et là-dessus, on va se servir du support pour déjà un petit peu amener du relief à la façon qui nous plaît le mieux. Et des façons, après, avec une éponge très plate, venir surfacer pour rapporter les lumières, rapporter les couleurs dessus, comme ceci. Et donc, pour les nuages, le ciel, donc, on va tirer une première passe d'enduit couleur bleue souvent, hein, puisque le ciel est souvent bleu. Et puis là-dessus, les nuages seront faits également avec la truelle, avec un certain coup de main, mais c'est pareil, ce sont des années et des années de métier qui permettent d'avoir ce coup de main et qui fait que ce n'est pas évident à faire. Et on arrive à des choses extrêmement rapides, puisqu'il m'est arrivé de faire, donc pour l'anniversaire d'une entreprise, avec 2000 personnes dans le spectacle, hein, en spectateur, je veux dire, eh bien, j'ai réussi à faire 12 mètres carrés de peinture du massif du Mont-Blanc avec lac noir, ainsi de suite, en 2h30.
Voilà. Oui. Alors, si vous permettez, enfin, c'est une question un petit peu triviale, mais ça me préoccupe. Je suis maire d'une commune, je vous adresse une commande. Ouais. Et bon, cette réalisation que vous allez me proposer, elle va subir les intempéries. Comment est-ce que vous faites pour assurer la durabilité de vos œuvres?
Bon, d'abord, donc, on travaille avec des produits, uniquement des produits de façade. Pour les premières couches de ceci, ce sont des colles d'isolation, des choses comme ça, des produits qui ne sont pas lambda dans le décoratif, je veux dire, dans l'artistique. Ce sont des produits bâtiments, mais qui ont fait leurs preuves et qui ont une très bonne tenue. Ensuite, on va travailler avec des peintures acryliques, mais d'acrylique pur, pour être certain d'avoir une très très bonne qualité de peinture. C'est ce qu'on fait pratiquement de mieux en peinture bâtiment, hein. Et puis, par la suite, on met systématiquement une couche d'anti-graffiti. Alors, qui aura deux rôles. D'une part, elle nous servira donc à pour faire de l'anti-graffiti, proprement dit. Et puis également, pour les UV, tout ceci, pour faire une protection contre la pluie, et une protection contre les intempéries. Ça permet d'avoir une bien meilleure tenue. Voilà.
Et est-ce que vous garantissez, est-ce qu'il y a une garantie?
Non.
Non.
Alors, même en peinture bâtiment, il n'y a que des biennales, si vous voulez. Toutes ces histoires de décennales, ça n'existe pas, et encore moins dans l'artistique.
Vous êtes en plein travail, et tout à coup, il y a un trait qui ne convient pas. On peut récupérer, avec ces matières-là, on peut rattraper.
Ça fonctionne finalement comme un tableau traditionnel, comme on peut être derrière son chevalet, c'est-à-dire on est en acrylique, on repasse par-dessus et on recommence. Non, après c'est juste, on utilise des produits façades spécifiques à l'extérieur, mais après ça fonctionne vraiment comme un tableau géant.
Et le coût peut être très différent parce que... qu'est-ce qui fait fluctuer ce coût?
Alors, ce qui peut faire fluctuer le coût, c'est le sujet en lui-même. S'il demande beaucoup de... On va dire, on parle souvent en mètre carré. Si dans ce mètre carré-là, il y a beaucoup de travail, effectivement, il ne va pas coûter la même chose que un grand ciel avec une montagne, simplement... Entre une dizaine de personnages et un paysage, c'est pas du tout le même coup déjà, le sujet. Et puis après, il y a la situation du mur. Si effectivement c'est échafaudé, qu'il faut travailler à 15-20 mètres de haut, ou s'il est, le long d'un trottoir, c'est pas du tout le même coup non plus. L'accès, quoi. Mm-hmm.
Et vous travaillez par échafaudage ou bien vous prenez également une nacelle?
Non, on a fonctionné que avec des échafaudages, généralement. Parce que c'est souvent... suite à une réfection d'un bâtiment. Donc, il y a souvent déjà toute l'installation qui a été mise en place avant nous. La nacelle, elle pourrait venir plutôt dans une... s'il y a eu un souci sur une fresque où on viendrait faire une retouche éventuellement. Mais ça ne nous est jamais arrivé. En tout cas, on n'a jamais eu le cas.
Et c'est quoi le moment... le plus important pour vous, quand vous avez terminé, c'est quand vous retirez l'échafaudage et que vous apercevez l'ensemble de...
Ah oui, ça c'est un grand moment, ouais. Ouais, quand vient le moment où on le découvre enfin, parce que finalement, on sait à peu près ce que ça va donner. En tout cas, c'est déjà pour le révéler aux personnes, parce que comme c'est un jeu avec le public, avec les gens, quoi. Tout le temps, ils passent nous voir, tous les jours, ils viennent voir l'évolution, et ils ont du mal à se rendre compte malgré tout. Et le jour où tout ça, tout l'échafaudage s'en va, c'est la révélation à tout le monde. Et c'est le moment où on partage vraiment ça avec les habitants, les passants. Et puis, c'est le moment fatidique où on prie pour pas qu'il y ait une erreur à 10 mètres de haut.
J'en reviens un petit peu au début, au niveau du tracé. Comment faites-vous ? Vous avez déjà un tracé à l'avance et que vous appliquez, et ensuite, comment vous faites pour le tracé ?
Alors, comme je réalise en amont une maquette à l'échelle, généralement, je suis en bas. Et je dis à Roland, voilà, 2 mètres, tu traces tel trait qui fait 3 mètres de haut. Enfin, voilà. C'est souvent des directives comme ça. Et puis, après, on peaufine tous les deux sur place. Mais c'est vraiment un quadrillage, en fait. Il faut imaginer une feuille quadrillée et les centimètres deviennent des mètres. Voilà, c'est à peu près l'idée.
Voilà, mais le quadrillage n'est pas réel, en fait.
Oui, on ne quadrille pas.
Elle me donne les côtes chaque fois. Elle fait tous les repères de dessous et...
On joue à la bataille navale.
On ne quadrille pas réellement sur le chantier.
Voilà.
On met quelques points de repère sur les côtés. D'accord. Et puis par la suite, c'est le maître.
Et vous avez des spectateurs pendant que vous faites cette fresque ?
Oui, parce que la fresque est pour les habitants de la ville ou du village. Donc ils veulent voir ce que ça va être, ce qu'on fait, comment on fait.
Ça donne des vocations ?
Des vocations, est-ce qu'on a eu le cas? Je suppose.
On a des gens qui nous ont demandé quand même qu'ils voudraient bien faire de la fresque avec nous, hein. Mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas du travail pour monter une grosse entreprise.
Oui, qu'on est intéressé. Des peintres, des artistes peintres, on va dire, occasionnels, oui, on a suscité des envies comme ça. Après, on a plus donné envie aux gens de se dire. Mais on peut faire ça chez nous, voilà. Et sur mon mur, c'est possible.
Ah oui, cette question.
Ça arrive très souvent. Ah oui, c'est bien ce que vous faites. Ah oui, c'est une bonne idée. Oh, ben, je verrais bien ça chez moi, c'est possible chez moi.
Oui, pour déplacer le dessin des meubles, parce que si on s'y met, souvent c'est le meuble qu'on attaque. Mais là, on va le dépasser.
Parce que vous faites aussi des fresques intérieures.
Oui, on travaille pour des commerces, pour des particuliers. Alors, pour les particuliers, c'est souvent... c'est notre aventure, c'est plus personnel. On va travailler soit sur les anecdotes, soit sur une histoire. Je pense à un trompe-l'œil que j'ai pu faire, voilà, avec un meuble, un tableau de maître. Ils aimeraient avoir le tableau. Du coup, ils me demandent la copie, mais sous forme de trompe-l'œil. Alors, au fond d'un couloir, on voit ce tableau d'artiste avec un meuble qui n'est pas vrai en dessous, avec plein d'objets qui font référence à toute leur vie. Voilà, ça peut être vraiment... Après, ça peut être simplement un paysage d'enfance qui leur rappelle leur passé. Ou pour un commerce. En tout cas, tout le monde... peut demander une fresque ou un trompe-l'œil.
Vous avez des thèmes favoris ou vous brassez vraiment de toutes les idées
Non, je pense qu'on est ouvert à tout. En fait, c'est ça. On fait tout ce que nous demandent les clients. En fait, pour une fresque, ce n'est pas la même démarche que lorsqu'on est artiste peintre. Hein, parce que l'artiste fait d'abord le tableau, le vend ensuite. Nous, on le vend d'abord et on le fait. Donc, ça fait une grosse différence qui fait qu'on va bien se plier au goût du client. Et on essaye également de voir ce que le client désire, parce que souvent, il ne le dit pas. C'est nous qui devons deviner comment... C'est un peu comme dans le bâtiment, on apporte, on sent le client, ce qu'il est, par rapport à ce qu'il est. Il a des goûts et on essaye de rentrer dans ces goûts-là. Voilà. Et ce n'est pas évident, mais... Là-dessus, on y arrive.
Oui, après, on a des choses qu'on préfère. Roland, c'est le paysage. Voilà. Dès qu'il y a un paysage, c'est Roland.
Très paysage.
Et Charline, les portraits
Oui, j'adore. J'adore les personnages, j'adore mettre en situation, une mise en scène. C'est un peu comme au théâtre où j'ai mes comédiens et la mise en scène de personnages, j'adore.
Mais c'est pour ça que vous touchez un peu au théâtre.
Oui.
Ou bien oui. C'est le théâtre qui vous a amené à la fresque ou c'est la fresque qui vous amène au théâtre?
Bizarrement, c'est un peu les deux parce que j'ai rencontré Roland en participant à Son et Lumière. Donc finalement, l'un et l'autre sont liés. Après le théâtre, oui, c'est une passion. En fait, Je suis passionnée par beaucoup de métiers artistiques. C'est là où ma difficulté a été là pour faire mon choix de métier, je pense.
Non, mais elle peint très bien, elle chante très bien, elle joue très bien.
On a envie d'aller plus loin. Alors, quelle est cette passion du théâtre? Vous faites du théâtre?
Alors, ça fait bientôt plus de 12 ans que je fais partie de l'association Les Historiales qui fait le son et lumière à Pressin. Et puis, j'ai joué donc, pendant 10 ans dans ce son et lumière. Là, maintenant, j'ai un petit peu confié mon rôle à plus jeune. Et puis, je me suis plus axée sur les décors, parce que voilà, je m'occupe bénévolement des décors avec une belle équipe de 10 peintres que j'ai formés. Voilà, notre équipe de bénévoles, on s'occupe des décors des Historiales. Et puis, à côté de ça, je fais partie depuis maintenant 3 ans d'une autre association qui, là, m'a fait vraiment revenir sur les planches en tant que telle. Avec, là, on n'est plus dans le son et lumière, on n'est plus dans le...
Dans le décor
Enfin, disons que c'est pas le direct, c'est du playback, voilà. Parce que les Historiales, c'est, vu qu'on est en extérieur, c'est en playback. Voilà, j'avais envie de retrouver un peu le sens même du vrai théâtre, et j'ai intégré une association à Ost, les mieux tard que jamais, et donc ça fait 3 ans que je joue une pièce avec eux, dans cette petite équipe formidable.
C'est super. Vous avez, Roland et Charline, plusieurs points communs. Et donc, un des points, c'est l'échange. Justement, vous avez parlé, et l'échange dans la formation à travers les ateliers. Comment se passent ces ateliers? Comment fonctionnent-ils? Comment peut-on s'y inscrire?
Eh bien, je vais peut-être laisser la parole à Charline là-dessus, parce que c'est plus responsable de ça que moi.
Non, mais cette idée déjà de transmission, tu dis que voilà, j'en suis responsable, mais en fait, le responsable à la base, c'est Roland, parce que Roland, c'est un homme généreux qui donne tout son savoir à qui veut bien l'apprendre. On n'est pas du tout dans le... Parce que, pour connaître un tout petit peu le milieu de la peinture, voilà, c'est un milieu aussi un peu fermé sur ses propres techniques. On a son univers, on dévoile peu. Roland, c'est l'inverse. C'est plus il donne, plus il est heureux. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'était un bonheur, puisque j'avais quelqu'un qui me confiait, qui me guidait, qui m'apprenait plein de choses. Et on a gardé ça, je pense, depuis notre rencontre jusqu'à maintenant. On a essayé de garder ça, de partager, de rendre ce métier finalement un peu solitaire, en tout cas dans la partie création. On se retrouve un peu seul avec son papier, son crayon, après avec sa peinture et ses pinceaux. Et on s'est demandé comment... sans malheureusement nous demander trop de temps, parce qu'on est très pris par le métier puis par autre chose, sans donc prendre trop de temps, comment transmettre, comment partager cet amour de la peinture, de la création. Et on a décidé depuis maintenant 3 ans de faire ce qu'on appelle les ateliers du jeudi. Donc on ouvre notre atelier à qui veut y rentrer, et la seule condition, c'est de venir avec des idées, des envies déjà. Parce que comme on n'instaure pas un cours à thème en disant aujourd'hui on va prendre ça, 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 telle technique, c'est pas du tout ça. Alors du coup, les personnes viennent avec leurs idées, leurs envies, un peu de matériel, et ils viennent, ils disent voilà, mon but c'est de faire un trompe-l'œil, mon but c'est d'apprendre à dessiner un portrait. Voilà, et on les guide.
Vous assistez à ce moment-là.
Voilà, on guide. Il y a une question, on est là pour leur répondre. On est là pour donner un micro-cours sur une perspective, sur un détail comme ça. Voilà.
Ça se passe toujours dans la très bonne humeur. D'ailleurs, nos élèves ne quittent jamais les cours à l'heure de quitter, mais une heure après, souvent.
Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers.
Il monte du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers. Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages, qui appellent au puits tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire telle peur que pour trois nuits au moins nous rêvons des frayeurs, des bergers. Ils ont les mêmes rites et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes, les bergers. Entre l'an et de jeûne, entre l'an et de beau, qui appellent les filles à faire le gros dos, les bergers. Ceux-là ont des sourires qu'on dirait une fleur et des éclats de rire à faire jaillir de l'eau, les bergers. Ceux-là ont des regards à vous brûler la peau, à vous défiancer, à vous clouer le cœur, les bergers. Mais tous ils nous bousculent, qu'on soit fille ou garçon, les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons, les bergers. Alors nous partageons le vin et le fromage, et nous croyons une heure faire partie du voyage des bergers. C'est un peu comme Noël, Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes ont fini de nous boire notre eau, se remettent en route à l'ombre d'un pipeau, les bergers, les bergers, les bergers.
Couleur FM 97.1, avec nos invités Charline Charge-Lègue et Roland Bertrand, et de l'album Le Plat Pays, nous avons entendu Jacques Brel dans Les Bergers.
Alors Charline Chargelec, vous nous avez parlé de ces ateliers du jeudi. Où se trouvent-ils et comment peut-on s'inscrire ?
Alors, ils se trouvent dans notre atelier où on travaille tous les jours, ou presque. Donc à Pont-Mauvoisin, dans l'ancien lycée Bravaz. Alors pour ceux qui sont de Pont, ils vont savoir où c'est. Pour ceux qui ne savent pas, il faudra mieux me contacter parce qu'il est bien caché. Mais il est à Pont-Mauvoisin, Isère. Voilà.
Et alors, vous travaillez avec des élèves dans des établissements scolaires ?
Alors, ça m'arrive d'être intervenante, oui.
Intervenante, c'est-à-dire ?
On me contacte souvent, enfin, de temps en temps, pour soit un projet, on va dire, lié à leur programme scolaire. Ils doivent faire une réalisation artistique. Dans quel cas, ils prennent un professionnel pour aider les élèves à aboutir à leur propre projet. Là, en l'occurrence, en ce moment, j'interviens dans un collège pour réaliser des fresques sur les murs de couloirs du collège. Donc voilà, c'est y a 6 fresques qui font 1 mètre par 6. Donc c'est plutôt sous forme de frise, puisque on est obligé de faire en fonction du mur. Donc là, on est dans des couloirs, donc c'est plutôt sous forme de frise. Et donc j'aide ces élèves à créer, déjà, par rapport à un sujet, un thème. On a conçu leur dessin ensemble, et ils le réalisent maintenant jusqu'à... Ils sont en train de fignoler, là. Voilà.
Et alors, on retrouve vos cours dans les tags en ville ou ailleurs.
Ah, j'aimerais bien.
On retrouve votre patte.
J'aimerais bien, ça me ferait plaisir.
Donc, ça veut dire concrètement, vous intervenez dans tout le processus de création avec les enfants.
En l'occurrence, dans celui-ci, oui.
Oui.
L'intérêt, c'était justement pour eux, ils devaient découvrir un métier en même temps. C'était vraiment le but, le désir des enseignants, c'était de montrer ce métier qui pour beaucoup d'enfants, soit ne peut être qu'un loisir, enfin très très loin d'eux. Enfin, pour beaucoup d'élèves, je faisais un autre métier à côté. Et je leur expliquais comment on fonctionnait, ce qu'on pouvait faire, comment fonctionne le processus de création. Donc la recherche, la documentation, la sélection de visuels, sur quel parti pris on va partir, etc. Et après, il y a la technique. Comment on va réaliser le projet qui est sur papier.
Et c'est enrichissant pour vous ?
Ah, très. Parce que les idées... quoi. Les enfants ont une imagination débordante et ça c'est, et puis surtout ils ont pas de frontières, ils ne se jugent pas assez jeunes, ils se jugent pas, ils mettent pas trop parce qu'après il y a toute je sais pas dessiner, je sais pas faire, je saurais pas faire, alors que pris au collège en sixième c'est un régal parce que ils foncent quoi avec toute leur imaginaire.
Et donc, pendant ce travail de préparation, est-ce que vous êtes... Enfin, les enfants vous inspirent des personnages, enfin, quelque chose, ou c'est vous apportez le projet, ils se calquent sur le projet, ou c'est vraiment... Il y a une création totale, même au niveau de la composition de la fresque.
Alors, on est obligé, au démarrage, d'avoir un pseudo-thème. Parce que si... on ferme pas un peu des portes, on part dans tous les sens et c'est pas possible. En tout cas, pas avec un temps, parce qu'il y a un temps donné. Il y a quand même des heures à respecter. Donc si on veut aboutir, on est obligé de fermer quelques portes. Après, par contre, voilà, on a une idée, voilà, une direction. Et c'est avec eux que je vais peaufiner ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils aient l'impression d'avoir... ce qui va apparaître sur le papier, en tout cas leur projet papier, il faut qu'ils aient l'impression de l'avoir monté eux. Même si je suis là pour dire une phrase, peut-être anodine, mais qui va résonner chez eux en se disant « Ah oui, mais ce qu'elle a dit, ça me donne une idée. » Voilà. Comme là, on est en train de travailler. Voilà, le thème, c'était les végétaux, parce que ça permettait... On était dans le couloir de biologie... le club, il y avait un club jardin qui s'occupait du jardin du collège, donc ça permettait de rebondir sur ce qu'ils font à côté, et puis en même temps voilà, je leur ai dit que si on, par exemple, si on prend une plante et qu'on la voit normalement, si on la prend en photo normale, bon très bien, on fait du réalisme, mais si on zoome dedans très proche, on va rentrer dans des œuvres complètement abstraites, rentrer dans une feuille très près. C'est des formes incroyables. Et là, ils ont compris ça déjà. C'est un plus parce que, pareil, la notion d'abstraction pour des enfants qui sont pas initiés à l'art, c'est ils font n'importe quoi, c'est nul, je comprends rien, c'est facile. Non, c'est pas facile, ils le voient et puis ils comprennent qu'il y a une démarche derrière. C'est surtout ça aussi, la préparation papier, ça permet de leur faire comprendre la démarche. Pourquoi on fait ça? Il y a une raison. Voilà.
Les mettre en éveil, justement, oui.
Et apparemment, vous avez encore d'autres talents. Vous avez réalisé des affiches.
Alors, oui, dans le métier artistique, on va dire que, dans la vie en général d'ailleurs, je fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est peut-être pour ça que j'ai rencontré Roland, c'est peut-être pour ça que j'ai fait mon... Voilà, c'est que je suis très instinctive et je fais les choses quand je les ressens, quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Alors, ça marche pas toujours, ça marche souvent, j'ai de la chance. Et là, en l'occurrence, j'ai toujours été intéressée par l'illustration pour enfants, mais j'étais pas spécialement initiée, parce que c'est un milieu pareil, c'est une écriture particulière, le dessin pour enfants. Et comme j'ai fondé avec d'autres personnes, avec une dizaine de personnes, un festival pour enfants, ben voilà, je suis tombée dans l'univers de l'enfant, à travers les spectacles pour enfants, à travers... Et tout ça m'a inspirée et on m'a confié naturellement, on va dire, dans cette dizaine de bénévoles qu'on était au départ, la partie visuelle. Comme j'étais la seule issue, on va dire, du milieu artistique. Et bien sûr, je l'ai accepté bien volontiers. Et du coup, ça fait 7 ans que je fais l'affiche de ce festival. Et voilà, je m'amuse de plus en plus avec, avec les illustrations pour enfants. Et je commence à trouver mon identité à travers ça. Ce qui n'est pas simple, c'est vraiment un rapport particulier. Je ne prétends pas être illustratrice pour enfants, mais en tout cas, c'est un milieu qui me plaît, qui me parle. Et j'aime voilà, le spectacle pour enfants. Donc,
Est-ce que c'est la même accroche que vous utilisez pour vos expositions personnelles ? Parce que c'est encore un autre travail. Ne plus travailler sur le mur, mais sur d'autres supports et peut-être une autre technique que vous utilisez.
Bah, disons que la fresque et le trompe-l'œil, quand c'est des commandes, on travaille pour les autres. On est vraiment des artisans. Là, pour moi, c'est vraiment comme ça que... nous deux, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se voit. On est des artisans d'art.
Tout à fait.
Et par contre, son travail personnel, quand je décide de travailler sur une toile ou sur un bois, on le fait pour raconter quelque chose, parce que soit on a ressenti, soit on veut dire quelque chose. Donc on est beaucoup plus dans la démarche personnelle. Et effectivement, c'est un tout autre rapport. En tout cas, je ne le vis pas du tout de la même manière.
C'est une idée qui jaillit tout à coup et vous devez faire ce dessin, cette peinture. Ça se passe comme ça.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a... Après, on a nos goûts, on a nos références. Et puis, selon ce qu'on peut rencontrer, ce qu'on peut ressentir, on va avoir besoin, ou on a une vision, on a une idée. Donc, on va commencer à creuser cette idée. Et puis, à un moment, c'est une évidence. Ça y est, on a trouvé ce qu'on ressent, on a trouvé le moyen de le rendre visuel, ce ressenti. Donc là, c'est parti. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça. Mais en tout cas, voilà, je mûris ça dans ma tête très longuement. Alors, tous les tableaux ne finissent pas accrochés sur le mur. Hein. Il y en a beaucoup qui soit restent retournés dans l'atelier ou pire. Mais voilà, ceux qui ont abouti, en tout cas, qui ont intégré dans une expo, voilà, ça veut dire que j'ai réussi à dire ce que je ressentais.
Thank you.
Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Gustavo Alfredo Santolalla de Ushuaia à la Cuyaca, tiré de l'album Ron Rocco. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de cette musique?
Elle m'inspire, elle est, c'est un voyage, elle me permet de voyager dans ma tête. Voilà. Et puis elle est optimiste et je pense que bah, c'est ce qui nous réunit tous les deux, c'est que on est des optimistes et voilà, on fonce, on se laisse guider par le vent. C'est un peu l'idée de cette musique pour moi, en tout cas. Voilà.
Il faut juste dire qu'effectivement, les musiques que nous avons entendues sont le choix de Charline et de Roland.
Alors Charline Chargelègue, je voudrais qu'on revienne un peu sur le travail de peintre sur toile. Que faites-vous sur cette toile?
Alors donc, une de mes dernières séries de peintures personnelles, c'est mon rapport. C'est un moment où je me questionnais sur ma légitimité en tant qu'artiste peintre. Parce que quand on travaille souvent qu'avec des commandes, on est c'est entre l'artisan et l'artiste. Alors moi j'aime ça, je n'ai pas de problème avec ça du tout. Mais c'est pour mon travail personnel. C'est des fois il y a le risque de se perdre là-dedans, de plus savoir ce qu'on veut personnellement dire. Et puis finalement c'est ça que j'ai voulu dire. C'est quel est mon rapport avec cette toile quand je suis devant. Qu'est-ce que je veux raconter? Et finalement c'est je raconte dans cette série. Qui est derrière cette toile, quelque part? Est-ce qu'on dévoile des choses quand on peint? Est-ce qu'on dévoile pas? Est-ce qu'on raconte une histoire aux gens? Ou est-ce qu'au contraire, on est très proche de ce qu'on est et que les gens ne soupçonnent même pas à quel point on se dévoile? Enfin voilà, c'est un peu l'idée. Parce que c'est une discipline artistique où finalement, c'est pas comme le théâtre ou la chanson où la personne se livre en direct devant le spectateur. Là, il y a la toile qui fait le lien entre le moment où on a travaillé seul dans son atelier et puis le moment où elle est exposée au vu de tout le monde. Et c'est ce moment-là, en fait, où finalement très intime, où on dévoile ou pas quelque chose de nous, quoi. Voilà.
Est-ce que j'ai l'impression que vous trouvez votre équilibre dans la créativité, aussi bien Roland que Charline, et dans l'échange, avec autant de fougue et de passion l'un comme l'autre. Et vous avez toujours été à l'écoute de vous-même, en prenant parfois des risques. Là, c'est par les expositions personnelles, vous prenez plus de risques, entre guillemets, plus...
Et oui, on est, bien sûr.
De risque de vous dévoiler.
Oui.
Au lieu de vous cacher derrière un trompe-l'œil.
C'est ça, c'est que les fresques et trompe-l'œil, il y a le côté confortable où finalement on n'est pas maître du sujet. Alors ça convient, ça convient pas. Finalement, on n'a fait que répondre à une demande. Le travail personnel, c'est quand ça plaît pas, ça peut faire du mal ou pas. Mais en tout cas, ça nous touche différemment, évidemment.
Et pour vous, Roland?
Eh bien moi, du travail personnel, j'en ai pas fait énormément ces années dernières, j'en avais fait beaucoup. Hein. Je travaille aussi dans la même technique, lorsque je fais des tableaux, je fais également la technique de la truelle, ainsi de suite, mais avec des éléphants et des choses comme ça. Voilà, et j'en ai fait assez loin, puisque je suis allé même jusqu'à Moscou faire un tableau, hein. Donc sur la rue Arbat, tout près du Kremlin, dans un palace, et bon... une parenthèse, mais autrement, c'est vrai que je fais beaucoup aussi de peinture en spectacle, mais des choses qui font seulement 3-4 mètres carrés, 4-5 mètres carrés, mais fait dans la journée. Et notamment lors des biennales à Pont-de-Beauvoisin, où on avait travaillé aussi avec Charline, eh bien, on a fait une série de tableaux comme ceci qu'on a offert par la suite aux maisons de retraite et aux collèges. Voilà. Parce qu'on fait un tableau par jour au minimum. dans ma technique, je veux dire, voilà. Dès que Charline intervient, c'est un petit peu plus long, puisqu'elle fait quelque chose de beaucoup plus fignolé, hein, alors que moi, je reste à grand coup. Quoi. Mais c'est toujours dans la très bonne humeur, et puis surtout, on n'a jamais perdu de sourire. On se remonte le moral, de toute façon, on n'a pratiquement pas beaucoup besoin de se remonter, parce qu'on l'a toujours. Hein, c'est bien rare qu'on ne l'ait pas, et puis à travers des blagues, on est de bons vivants, voilà. On est bien un peu épicurien également.
Alors justement, j'aimerais bien savoir, il n'y a jamais de désaccord entre vous quand vous travaillez tous les deux sur un même projet? Jamais?
Depuis 12 ans, jamais rien.
C'est non, extraordinaire. On peut pas dire qu'on s'est disputé une seule fois, non, c'est impossible. En fait, je pense que plus complémentaire que nous, il n'y a pas. En tout cas, dans le métier du travail. Notre métier, c'est extra, ouais.
Non, on ne pourrait pas.
On est complémentaires, en fait. On n'intervient pas forcément. On n'a pas les mêmes compétences, donc on s'est complétés. Roland avait des techniques de peintre en bâtiment qu'il m'a permis d'acquérir. Moi, j'avais je venais de sortir d'école, donc j'avais des références toutes fraîches, toutes neuves. Donc il a pris ça, et puis voilà. Il transmettait, je recevais, et puis maintenant j'essaie de. Maintenant, ça s'est équilibré.
Oui,
on partage.
Elle est maintenant bien au-dessus de moi. Mais je l'ai vu évoluer pendant ces années qu'on a travaillé ensemble. Je l'ai vu non pas quelconque, mais non pas non plus approximative, mais enfin pas aussi bien en portrait, tout ceci. Et puis depuis quelques années, alors c'est très bien. Hein, je dis qu'aujourd'hui c'est le summum. Voilà.
Ça c'est l'ami qui parle.
Alors pour Charline, c'est le summum, donc elle va trouver autre chose à déblayer.
Non, il y a encore beaucoup de travail. Vraiment.
D'accord.
Est-ce qu'on peut parler un peu de l'actu, de vos projets, de ce que vous faites maintenant, de ce qui va se passer bientôt?
Alors actuellement, on a un projet de fresque pour une commune en Isère. Donc je suis en plein milieu de ma maquette. Donc on a proposé des idées. Je suis en train de réaliser la maquette. C'est un projet qu'on aura à faire printemps-été, certainement.
Avec des trompe-l'œil, enfin avec également des matières, puisque là on aura du pisé. À reproduire dans l'exactitude. Bon, on le faisait déjà. Moi, j'ai déjà fait.
Oui, c'est une fresque très complexe. Ouais. Enfin, très complète, je veux dire. Ouais. Et avec une... Elle a une petite originalité, mais on le fera savoir en temps voulu. Mais c'est une fresque qui a quelque chose de très particulier.
Et une expo personnelle aussi, pour vous?
Alors, pas d'expo dans l'immédiat. Certainement, je participe de temps en temps à une exposition en automne qui est une association sur la commune des Abrets. L'année dernière, j'ai eu la chance d'exposer au château de Virieux.
Donc, un beau lieu.
Ah oui, un très beau lieu. C'était fantastique. Si ça va se réitérer cet automne, je ne sais pas encore. En tout cas, pour l'instant, mon projet personnel, c'est de pouvoir réaliser mon atelier galerie sur la commune des Abrets. Je suis en plein travaux. Voilà, ça prend un peu de temps parce que je fais beaucoup de choses moi, mais j'aimerais avoir un lieu, de toujours dans l'esprit de notre atelier à Pont-de-Voisin, de partage et d'échange. Mais aussi un lieu qui accueille un peu de place pour montrer mon travail et puis montrer ceux des autres aussi, qui ont beaucoup de talent autour de moi. Et j'aimerais montrer, avoir un lieu associatif comme ça qui permette ça.
On peut vous retrouver sur un site web?
Alors, j'ai un blog, pour l'instant, pas de site en tant que tel, mais j'ai un blog, de mémoire, c'est charline-chargeleg.blogspot.com. Après, Charline Chargeleg ou Roland Bertrand, sur un moteur de recherche, ça marche très bien. Et puis, il y a les réseaux sociaux, alors voilà, aussi.
Roland Bertrand, encore quelque chose à ajouter nous quittant?
Oui, tout simplement, dire simplement que moi j'ai déjà 66 ans bientôt, là, au printemps. Et donc, j'espère, je dis, tant que je serai vivant, tant que je serai debout, eh bien, je travaillerai. Et tant que je pourrai travailler avec Charline, parce que je pense que j'aurais déjà arrêté si je serais pris ma retraite, si j'avais pas eu cette ambiance, ce travail-là, qui est quand même formidable.
On est poussé comme ça. Pousser
oui.
Dans le dos.
Tout à fait. Le fait d'avoir quelqu'un avec soi qui partage les mêmes choses, on est vachement... On y va, quoi. On y va. Quel que soit notre âge.
Merci beaucoup, Charline Chargeleg. Merci, Roland Bertrand, pour votre visite et puis ce trompe-l'œil. Merci, Dan. Merci, Dom.
Merci, Titane.
Et merci, Laurent.
Merci
à très bientôt. Merci.
Merci à vous.
Ce fut un régal.